Chapitre 27. Voyant l'attention de Nietzsche alors qu'il se tenait sur la place du marché aux esclaves en compagnie des membres du conseil, Nathan souffla
« Avec Ildakar, la légende est bien préférable à la réalité. Ce marché te trouble, magicienne, et je comprends pourquoi. »
« Je hais l'esclavage sous toutes ses formes. Jadis on m'appelait la reine esclave, mais Richard a changé tout ça. » Les vêtements bigarrés, les senteurs de fleurs et les conversations animées ne parvenaient pas à faire oublier la sinistre réalité des lieux. « Quand des roses poussent sur du fumier, » continua la magicienne, « elles n'en cachent pas la puanteur. » La grande place au pavage impeccable était entourée de hauts bâtiments blancs. Au milieu trônait une nouvelle statue, celle du jeune berger récemment pétrifié par Maxime. Si la majorité des gens n'y prêtaient pas attention, certains savaient très exactement de quoi il retournait. Au pied du socle, Nietzsche remarqua de petits éclats de miroir que la voirie n'avait pas encore nettoyés. Avide de voir la cargaison des deux navires d'esclavagistes, des gens déboulaient des rues transversales. Dans leurs plus beaux atours, des négociants et des marchands étaient suivis par des esclaves loqueteux. À Ildakar, les nobles détenteurs du don semblaient ridiculement fiers de leurs beaux habits, de leurs colliers, de leurs amulettes ou de leurs broches. Comme des fleurs poussant dans un désert après la pluie, les étals de marchands de vin s'étaient multipliés en un clin d'œil. Ployant sous le poids des tonneaux, des charrettes assuraient le renouvellement du nectar. Sur le périmètre de la place, des vendeurs de nourriture se disputaient les meilleurs emplacements. Pendant que de la viande rôtissait sur de petits braseros, ces commerçants se livraient à une telle surenchère qu'on ne s'entendait plus penser. Non loin du pauvre berger, une estrade rectangulaire semblait assez grande pour supporter au minimum 100 personnes. Une tonnelle semée de fleurs rouges au parfum entêtant ombrageait la triste scène de l'infamie à venir. L'air contrarié, soulevant sa tunique d'une main pour se ventiler, Reine apostropha le sorcier et la magicienne.
« Il me faut une dizaine de nouveaux esclaves, » dit-il, « mais je serai bientôt parti à l'aventure, en quête de ce surplomb du monde de malheur. »
Accablé, il secoua la tête.
« Par la barbe du gardien, comme cette expédition tombe mal. Heureusement, vous avez consigné les détails de votre voyage, m'a-t-on dit. Si vous m'indiquez le chemin, je serai très bientôt de retour. »
Nathan regarda ailleurs et Nietzsche répondit froidement.
« Comme je l'ai dit à la Sovréna, ces gens ont le droit de rester cachés. »«
De votre part, » marmonna Reine, « j'attendais plus de bonne volonté. »« Bien, je traverserai les montagnes, puis je fouillerai les canyons à l'ouest. Avec mon don, je dois pouvoir réussir. Mais pour le moment, priorité aux bonnes affaires. »
Quentin se fendit d'un ricanement. Autour de sa tête, sa couronne de cheveux sombres évoquait un amas de nuages d'orage.
« Tu auras besoin d'esclaves pour prendre soin de ton intérieur. Achète-les aujourd'hui et laisse-les gérer ta demeure en ton absence. »
Reine eut l'air horrifié.
« Des esclaves pas formés? Tu veux qu'ils flanquent le feu à ma villa ?»
Quentin ricana de nouveau.
« Dans ce cas, on les éventrera en public pour faire un exemple. »
« Au prix de ma villa? Merci beaucoup, mais c'est non. »
Reine lâcha la bonde à son exaspération.
« Il faut que je réunisse mes hommes et mon ravitaillement. Les soldats de Trevor sont prêts et nous sommes censés partir avant le coucher du soleil. Ce sera un long voyage. »
Plein d'espoir, il se tourna vers Nathan.
« C'est juste après les montagnes ?»
Finemouche, le compagnon de Nietzsche, ne tomba pas dans le panneau.
« Bon, il faut que j'y aille. »
Image vivante de la déception et de l'outrage, Reine fila comme le vent. Elsa, la solide matrone aux cheveux grisonnants, rejoignit Nathan et engagea la conversation.
« Je ne cracherai pas sur 4 ou 5 esclaves de maison supplémentaires, » dit-elle. « Il y a des mois que les Norokai ne sont plus venus avec du nouveau matériel. Moi, je n'ai plus acheté d'esclaves depuis des années. Mine de rien, ce n'est pas donné. Une bonne partie des miens sont trop vieux pour être encore efficaces, mais je m'y suis attaché. »
Sur des gradins face à l'estrade, des acheteurs potentiels montraient qu'ils avaient de l'argent, confirmaient leur intention de conclure une affaire et recevaient de petites pancartes afin d'enchérir. Les membres restants du Douma gagnèrent leur siège réservé en haut des gradins, mais des gardes empêchèrent Nietzsche et Nathan de les suivre.
Désolé, dit un jeune officier à la barbe naissante. Mais vous n'êtes pas des citoyens d'Ile-Dakar, et ces sièges sont réservés aux enchérisseurs. Vous avez l'intention de faire des emplettes ?
Certainement pas, répondit sèchement Nietzsche.
L'air perplexe, Nathan se pencha vers elle.
Et pourquoi pas, magicienne ? Nous pourrions acheter quelques-uns de ces malheureux, puis les affranchir aussitôt. Ce serait un exemple pour cette fichue ville.
Nietzsche regarda le vieil homme, fier de sa détermination, mais surprise par sa naïveté.
Très bonne suggestion. Mais où comptes-tu trouver assez d'argent pour tenir la dragée haute à ces nobles ?
Avec mon don, j'aurais pu en créer à foison. C'est une aptitude bien utile.
Tous les sorciers d'Ile-Dakar ont la même. Non, nous devons être plus ambitieux. L'idée, c'est de saboter la vente. Acheter un ou deux esclaves ne changerait rien.
Les yeux plissés, Nietzsche balaya la foule du regard.
Sauf pour ceux que nous sauverions,
insista Nathan.
Sur ce point, tu as raison,
concéda Nietzsche. Mentalement, elle cherchait une idée brillante. Sans broncher, elle continua à observer l'assistance qui grossissait sans cesse.
Je me suis toujours cru libre, mais l'ordre impérial me tenait dans les chaînes de mes propres croyances. Sans savoir que j'étais esclave de ma folie, je servais aveuglément Jagang.
Avant, le piège, c'était ta loyauté envers le gardien. Quand tu étais une sœur de l'obscurité, je veux dire.
Nietzsche expira lentement pour se calmer, mais en réalité, elle n'avait aucune envie de renoncer à sa colère. Son intention, c'était de renforcer sa détermination. Comment combattre une ville entière ? Qu'opposer à des pratiques perverses datant de millénaires ? Et que faire contre des sorciers surpuissants ?
Maintenant, je sers librement Richard, dont l'objectif est de libérer les peuples.
Nietzsche balaya sombrement la place du regard.
Mais ici, les chaînes sont trop épaisses et trop solides.
Moi, j'étais prisonnier des Sœurs de la Lumière,
rappela Nathan.
Esclave des prophéties, j'étais cloîtré dans une tour à cause de mon don. Mais je me suis évadé, comme toi, qui a brisé l'emprise du gardien puis celle de Jagang. Allons, ne baissons pas les bras. Rien n'est impossible.
Oui,
concéda Nietzsche.
Rien n'est impossible.
En retard, comme toujours, André apparut, fendant sans complexe la foule. Souriant, il jeta un bref coup d'œil à Nathan.
« Si j'achète des cobayes, dit-il, nous trouverons un moyen de te rendre le cœur dont tu as besoin. Qu'en dis-tu ? »
Les gradins du haut étant pleins, le sorcier de chair dut se contenter d'une place en bas, ce qui le contraria. Mais il oublia sa mauvaise humeur dès que des roulements de tambour retentirent. Sur la place, la foule se divisa en deux pour céder le passage aux Norukai et à leurs marchandises. Nietzsche se hérissa. Endurci par l'hostilité de leur terre natale, puis par toute une vie de violence, les esclavagistes étaient tous des colosses nés pour le combat. Vêtus d'un épais gilet de cuir qui évoquait de la peau de requin, mais les écailles ne correspondaient pas, ils avaient des bras couverts de tatouages et aussi gros que les cuisses d'un homme normal. Un corset de cuir, des hauts de chausses noires et des bottes à bout ferrés complétant leur tenue, ils portaient à la ceinture une panoplie d'armes mortelles. En plus d'une hache, d'une épée et d'un couteau, certains étaient munis d'un fouet à plusieurs lanières. Pour mieux ressembler à des serpents, tous s'étaient fendus les joues jusqu'aux oreilles avant de les recoudre avec du fil de cuir. Histoire d'en rajouter, quelques-uns s'étaient fait tatouer des écailles sur le visage.
« Je me souviens d'en avoir tué beaucoup. »
murmura Nietzsche.
Nous avons sauvé la population de Renda sur Bay, dit Nathan.
Il tapota la poignée de son épée.
Même sans mon don, je me suis révélé un puissant guerrier. Mais franchement, je donnerais cher pour pouvoir lancer un sortilège.
Les Norukai arrivaient avec plus d'une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants offerts en pâture à la ville. Maigres, crasseux, très souvent pieds nus, ces malheureux laissaient des traces sanglantes sur les pavés. Dès qu'ils aperçurent l'estrade, les premiers murmurèrent entre eux. Derrière, la plupart de ces sacrifiés gardaient les yeux baissés. L'estomac retourné, Nietzsche ferma rageusement les poings.
Avec du feu de sorcier, elle aurait pu en un clin d'œil tuer tous les esclavagistes. Mais quel bien ça aurait fait.
Quand elle combattait encore pour des causes perdues, elle se montrait souvent téméraire, mais là, c'était différent. Les grandes batailles devaient se livrer proprement.
En larmes, une femme luttait de toutes ses forces pour ne pas éclater en sanglots. Un Uruk-hai y approcha et la gifla si fort qu'elle perdit l'équilibre. Avant qu'elle ait pu tomber, l'esclavagiste la prit par les cheveux et l'entraîna avec lui. Les jambes en coton, elle tenta de ne pas s'écrouler, et un de ses compagnons de misère la tint par un bras. Miraculeusement, elle trouva la force de continuer à marcher. Voyant que les esclavagistes regardaient tous la femme, un type aux cheveux en bataille se détacha de la colonne d'esclaves et fonça dans la foule comme s'il espérait s'y fondre.
« Que croit-il faire ?»
lança Nathan. Nietzsche se prépara au cas où une rixe éclaterait.
« Le désespoir lui a fait perdre la tête !»
Le fugitif tendit les mains, implorant l'aide des habitants d'Ildakar qui ne bronchèrent pas. Deux Uruk-hai se lancèrent à la poursuite de l'homme. Le plus rapide dégaina son épée, arma son cou et transperça le dos du pauvre type. Tandis qu'un geyser de sang aspergeait les curieux, le second Uruk-hai, les yeux brillants d'une joie mauvaise, avec ses joues cousues, il ne pouvait pas sourire, tira de sa ceinture une massue hérissée de piques qu'il abattit sur l'épaule de sa proie, faisant éclater la peau et craquer les os. Alors que le coup d'épée était déjà mortel, l'esclavagiste à la massue prit un malin plaisir à faire exploser le crâne du moribond. Instruits par l'expérience, les curieux reculèrent pour éviter les projections de sang. Fascinés, ils roulèrent de grands yeux quand un troisième coup écrabouilla le visage du prisonnier. Le premier Uruk-hai approcha, leva son épée et larda le fugitif de coups. Bientôt, il ne resta plus qu'une infâme bouillie sur les pavés. Satisfaits, les deux esclavagistes rengainèrent leurs armes et retournèrent près de la colonne. Révulsés, les prisonniers n'osaient plus bouger. Comme s'ils s'étaient attendus au drame, des esclaves d'Ildakar accoururent avec des seaux d'eau et des brosses et entreprirent de nettoyer les dégâts. Les sourcils épais sous un front dégarni, le Uruk-hai qui menait la colonne arborait sur le côté gauche de son crâne rasé une dent triangulaire, peut-être de requin, qui semblait jaillir de sa peau. En réalité, le tissu cicatriciel avait dû pousser tout autour, emprisonnant la dent.
« Quand il s'agit de s'en les dire, » souffla Nathan, « ces gens ont une imagination inépuisable. »
Sur les gradins, André eut un claquement de dents.
« Oui, c'est très décevant. Leur technique manque vraiment de raffinement. Avec mon don, je pourrais les remodeler sans douleur, mais je crois qu'ils adorent souffrir et exhiber leurs cicatrices. »
Une manière de se sentir plus courageux et plus fort, dit Nietzsche. J'ai connu des hommes pareils, naguère. En tunique d'affaires, des revendeurs d'esclaves locaux s'étaient réunis sous l'estrade ombragée par une tonnelle aux fleurs couleur de sang. Le Uruk-hai de tête prit la parole d'une voix assez puissante pour faire oublier qu'il avalait une bonne partie de ses mots.
Je suis Kor, capitaine de ce duo de navires. Aujourd'hui, nous vous proposons 116 esclaves, dont nous espérons tirer un bon prix. « Si tout se passe bien, nous serons ravis de vous céder ce bétail humain. »
Les esclavagistes firent monter leurs prisonniers sur l'estrade. Sifflant comme des serpents, ils les forcèrent à se mettre en rang. Les revendeurs d'Ildakar vinrent examiner le cheptel. Pour que les malheureux se tiennent tranquilles, ils les aiguillonnèrent avec des lianes lestées de fleurs rouges qui tombaient de la tonnelle. Sombrant dans l'hébétude, les futurs esclaves ne bougèrent plus. Même à distance, Nietzsche sentit l'odeur des fleurs devenir bien plus forte. La tête lui tournant, elle supposa que ces végétaux diffusaient un tranquillisant, dont l'effet était augmenté par le don des revendeurs. Quand les prisonniers furent tous anesthésiés debout, les marchands passèrent dans les rangs, déchirant les chemises ou les robes qui dissimulaient plus ou moins les chairs meurtries des futurs esclaves. Bien entendu, ces sales types prirent un plaisir particulier à dévêtir les jeunes femmes, et à palper leurs seins comme des melons sous les yeux avides des enchérisseurs. Plus hardi que les autres, un des revendeurs força les plus belles filles à écarter les cuisses et à exposer leur toison intime. Eux aussi déshabillés, les enfants furent poussés à l'écart pour être proposés aux amateurs les plus répugnants d'Ildakar. Parmi les adultes, on sépara du lot les hommes les plus costauds et les femmes d'âge moyen qui feraient les meilleurs serviteurs. Sur les gradins et autour, les commentaires techniques allaient bon train. Folle de rage, Nietzsche se retenait d'exploser. Elsa désigna le groupe de futures servantes et lança
« Quelle enchère de départ pour ces quatre-là au milieu !»«
Et les types de la première rangée, ils sont entraînés au combat ?» demanda Ivan. « Seraient-ils capables de lutter dans l'arène ?»
Le capitaine Corr se tourna vers les gradins.
Je n'ai pas enquêté sur les compétences de ces gens. Sur nos navires serpents, nul besoin de domestiques, donc ces captifs ont passé la traversée dans la cale. Mais lors des attaques de village, nous avons tué tous les hommes assez idiots pour résister. Du coup, je doute qu'il y ait des guerriers d'élite dans le lot.
Corr jeta un coup d'œil aux prisonniers, puis regarda de nouveau la foule.
Vous posez des questions qui ne m'intéressent pas. Pour moi, ces misérables sont du bétail, de la viande sur pâte. Les Norukai sont des bergers, et à l'occasion des bouchers, rien de plus. Achetez ces carcasses et faites ce que vous voulez avec.
Du coin de l'œil, Nietzsche vit qu'une silhouette familière approchait. Les cheveux noués en queue de cheval, c'était Bannon, l'air sinistre. En rejoignant ses amis, il soupira.
J'étais avec Amos et les autres quand les bateaux sont arrivés. Il fallait que je vienne voir ces malheureux. Yann était l'un d'entre eux il y a des années.
Nietzsche comprit ce que voulait dire le jeune escrimeur. Un jour, Yann avait dû se trouver sur cette estrade, sonné par la drogue, affaibli par la faim et couvert de contusions.
« J'offre 4 pièces d'or pour ces femmes, » dit Elsa. « Elles semblent travailleuses et je les traite très bien. »
« Je me fiche de ce que vous leur ferez !»
rugit Corr.
« 4 pièces d'or ?»
s'indigna une enchérisseuse.
« C'est un prix de départ trop élevé. » « Si on les paie un bon prix et qu'on les soigne bien, les esclaves font de meilleurs serviteurs. »
Une autre noble accola les doigts de ses deux mains, donnant l'impression qu'une araignée dansait sur un miroir.
« Combien pour les 3 mignons petits garçons ?»
En contact avec les fleurs, les 3 gamins ne bronchaient pas.
« Ça suffit !»
lança une voix puissante.
« Ces enchères sont terminées !»
La Sovréna apparut sur la place, venant d'une rue latérale. Maxime l'accompagnait et s'il ne se manifestait aucune tendresse, les deux époux semblaient unis dans l'action.
« Nous invoquons le droit de préemption, » dit Maxime. « Tout le lot est à nous !»
Les revendeurs d'esclaves ne cachèrent pas leur surprise.
« Il faut fixer un prix équitable, sorcier en chef. »«
Nous disposons des finances de la ville, » répondit Maxime. « Le paiement sera équitable, mais il nous les faut tous. »
« Sans exception, vraiment ?»
demanda Quentin.
« C'est la première visite des Norukai depuis des mois. Tout le monde a besoin d'esclaves. Avec la défaillance du linceul et à cause de ce maudit masque noir, trop de gueux se sont enfuis ces derniers temps. »«
Les esclaves restants se reproduiront, »
dit Tora.
« Nous, c'est pour la magie du sang qu'il nous les faut. Une fois le linceul rétabli, les évasions cesseront. »
Elsa grogna de mécontentement.
« Avant, il vous fallait moins de 20 esclaves pour relancer le linceul, et il y en a 116 sur cette estrade. Nous prévoyons un sort plus puissant, cette fois, »
siffla Tora.
« Les précautions ne sont jamais inutiles, » enchaîna Maxime. « Elsa a fixé le prix, en fait. 4 pièces d'or pour 4 têtes. Nos comptables verront ça avec les revendeurs. »
Il salua le capitaine Corr.
« Avec un tel prix, je ne doute pas de vous revoir la prochaine fois que le linceul sera abaissé. »«
Si nous l'abaissons de nouveau, »
modéra la Sovréna. Furieuse qu'on lui gâche son plaisir, la foule grommelait. Opportunistes, les marchands de vin annoncèrent une promotion exceptionnelle. Baissant aussi leurs tarifs, les vendeurs de viande agitèrent leurs brochettes. Dégoûté, Bannon secoua la tête.
« Nathan, je n'aime pas cette ville. » Tu crois qu'André en aura bientôt terminé? Il nous reste encore tant de parties de l'Ancien Monde à explorer.
Fiston, j'ai autant envie que toi de ficher le camp.
Nietzsche, elle, ne l'entendait plus de cette oreille.
J'hésite à abandonner les esclaves et la population. Jadis une cité de légende, Ildakar n'est plus qu'un bouge infâme. Le seigneur Hall nous a chargés d'une mission. Peut-on imaginer peuple ayant plus besoin d'être libéré? Comment pourrions-nous partir sans rien tenter? Il faut faire changer les choses et rétablir la liberté selon les vœux de Richard.
Nathan eut un rictus comme s'il venait de mordre dans un fruit pourri.
Avant d'avoir récupéré mon don, je ne pourrais pas t'aider. Jusque-là, je dois entrer dans le jeu des sorciers, même si tout ce que je vois me répugne.
Le vieil homme laissa transparaître son découragement.
Magicienne. « Toute seule, tu ne pourras rien contre des traditions millénaires. »
Nietzsche chercha le regard du prophète déchu.
Seul ? Non, puisque tu es là.
Bannon posa la main sur la poignée de son arme.
Et moi aussi.